podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau dossier de Frontières des séries. Aujourd'hui, Top of the Lake, une mini-série américano-australo-britannique diffusée pour la première fois en mars 2013 et qui débarquera sur Arte en octobre de la même année. Créée et écrite par Jane Campion et Gaspard Lee, cette série raconte comment Robin, jeune inspectrice, va tenter de résoudre la disparition d'une adolescente enceinte dans la petite ville de Lake Top en Nouvelle-Zélande. Pour la réalisation, la BBC Two tenait à donner carte blanche au créateur qui disposait de 2 millions de dollars par épisode. Côté casting, alors que Toni Collette était pressentie pour le rôle de Robin, c'est finalement Elizabeth Moss de Mad Men qui endosse le rôle pour une question de cohérence et de vraisemblance avec l'âge des acteurs. Au générique, on retrouve également Peter Mullan, David Wenham et Holly Hunter. Aujourd'hui, on en discute avec Héloïse Roire, bonjour.
Bonjour.
Et pour nous accompagner dans ce débat, Sophie Sourdiocourt, bonjour.
Bonjour.
Alors Héloïse, cette série commence par un départ, une disparition.
Oui, enfin pas tout à fait. Donc effectivement, il sera question d'une disparition, d'une enquête autour de cette disparition. Mais les premières images, des images assez chocs, assez jolies aussi, nous plongent directement dans une atmosphère un peu spéciale où l'on voit en fait cette jeune fille, donc Tui, qui est alors âgée de 12 ans, enceinte de 5 mois, tenter de se suicider dans cet immense lac. Il fait froid, il fait gris, le décor est déjà planté dès les premières images de la série. L'histoire se situe donc à Lake Top, qui est une petite ville néo-zélandaise, au pied d'un lac, donc cet immense lac qu'on verra de manière très régulière dans la série.
C'est un côté très Twin Peaks finalement, où dans Twin Peaks on avait ces images, ce feu de signalisation, ce hibou, ces scènes qui revenaient constamment, toujours les mêmes, qu'on retrouve aussi finalement dans cette série, puisque les scènes du lac sont quasiment toujours identiques.
On verra aussi qu'il y a d'autres points d'inspiration avec Twin Peaks, sauf que pour la disparition de cette jeune fille, là aussi, on peut faire une comparaison avec la série. Tui Mitcham est plutôt une jeune fille pas très populaire, qui est de type eurasienne et qui est très très loin de Laura Palmer. Concernant les personnages, tout d'abord le personnage de Robin, comme on l'a dit, qui est interprété par Elizabeth Moss. Donc Robin, en fait, c'est une inspectrice qui s'occupe de la protection des enfants et des adolescents. Elle est inspectrice à Sydney. Elle a quitté la petite ville de Lake Top quelques années plus tôt pour des raisons qui sont encore au départ obscures, mais qui progressivement s'éclaireront. Elle revient au pays pour la simple et bonne raison que sa maman est malade, qu'elle est atteinte d'un cancer et qu'elle souhaite donc accompagner sa maman qui est en fin de vie. Elle en profite donc pour assister la police locale sur cette affaire de mœurs, puisque lorsque Tui tente de se suicider et débarque à l'infirmerie de l'école, elle est tout de suite prise en charge, parce qu'on se rend compte qu'elle est enceinte, et là commence, avant même cette enquête de disparition, puisque l'adolescente est toujours bien là, au début de la série, commence alors l'enquête autour de cette grossesse qui a mis enceinte cette jeune fille. Robin, un personnage, une femme avec énormément de caractère, qui va laisser un fiancé aussi à Sydney. Donc on va voir que progressivement, elle va réactiver son ancien réseau, je veux dire ses anciennes relations. Elle va se reconstruire progressivement, elle va retracer l'histoire de sa vie à Lake Top. Sa vie passée, mais qui va redevenir donc sa vie actuelle. Ce qu'on remarque aussi, c'est que elle va très vite être touchée par l'histoire de Tui. Elle va prendre cette enquête à bras le corps. Et là aussi, on va s'apercevoir qu'il y a des choses qui entrent en résonance avec son histoire personnelle. Et c'est pour ça aussi que cette enquête va devenir obsessionnelle pour Robin.
Est-ce qu'elle était bien dans sa vie à Sydney? Parce que souvent, dans ce genre de situation, les personnages qui sont dans des grandes villes n'ont pas vraiment, c'est un peu lourd pour eux de retourner dans leur ville natale. Mais est-ce qu'elle, c'était aussi un besoin ou est-ce que c'était juste l'occasion qui faisait le larron et donc elle repartait et c'était pas vraiment une envie Est-ce que c'est lourd pour elle de retourner dans sa ville natale ou pas ?
Oui, clairement. Je ne vais pas dévoiler ce qui est en lien avec l'histoire personnelle du personnage, mais en tout cas, elle a fui l'Ektop. Donc, c'est pas de gaieté de cœur qu'elle va revenir dans cette ville, mais simplement parce que sa maman est malade et qu'elle a besoin d'elle, quoi. Donc, c'est vraiment, en tout cas, pour ça qu'elle revient. À côté de ça, elle va se prendre dans cette enquête et il est hors de question pour elle de repartir, de retourner à Sydney sans que cette enquête n'ait pu aboutir de quelque manière que ce soit. Donc ça, c'est pour le personnage de Robin. À côté, donc, je l'ai dit, il y a Thuy, donc, qui est l'adolescente de 12 ans qui tombe enceinte. Elle, c'est la fille de Matt Mitchum. Matt Mitchum qui est un autre personnage important de la série et qui est joué donc, par Peter Mullan. Matt Mitchum, c'est un mec totalement glauque, on va dire, un trafiquant de drogue qui a deux enfants, enfin trois enfants, et je dis deux, c'est parce que je pense à ces deux garçons qui sont un peu ses bras armés. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est quelqu'un aussi qui, on va le voir, est un peu paranoïa et qui est l'exploitant de Paradise, qui est l'endroit, le lieu-dit, qui se trouve au bord du lac et qui sera très rapidement investi par une communauté de femmes qui va attiser la colère de Matt Mitchum, puisque Matt Mitchum est en fait l'exploitant de cette partie de terre au bord du lac, mais néanmoins n'en est pas le propriétaire. Et donc le propriétaire va décider de vendre cette partie du lac et donc va s'installer cette communauté de femmes un peu New Age qui va prendre place au bord du lac.
C'est un genre de camping ou un genre de,
non, en fait,
de petite maison
Donc voilà, ce sont des containers qui vont arriver en bloc. Il faut savoir que ce qu'on peut dire des femmes en convalescence, en tout cas qui ont été blessées par la vie, qui vont se retrouver dans ce groupe avec cette gourou complètement allumée qui est JJ, interprétée elle par Holly Hunter.
Déjà vue évidemment avec Jane Campion.
Dans la leçon de piano, effectivement. Et donc, une de ces femmes qui détenait pas mal d'argent a fait don pour pouvoir acheter ce terrain au bord du lac et pour se mettre un peu en retrait de la société, pour discuter, pour entendre aussi les préceptes de cette gourou par rapport aux hommes et ce qu'ils peuvent apporter de négatif dans la vie de ces femmes. Ça, c'est pour Paradise et cette communauté de femmes. Il y a d'autres personnages aussi. Il y a Al Parker qui est en fait le chef de la police à l'Ektop et qui, à côté de son activité de flic, on va dire ça comme ça, a mis sur pied un programme pour réinsérer les jeunes adolescents un peu perdus, les brebis perdues de l'Ektop. Donc, c'est-à-dire qu'il a créé un café dans lequel il fait travailler ses adolescents pour pouvoir leur donner un projet de vie. C'est ce dans quoi il s'est investi à côté de sa carrière de flic. On va voir très rapidement aussi qu'il n'est pas indifférent au charme de Robin. Lui connaît aussi son histoire personnelle parce que c'est une très petite ville, donc il sait aussi pourquoi Robin a quitté l'Ektop. Il va aussi pousser à certains moments où ça fait mal. Il ne se cache pas non plus des sentiments qu'il a pour cette inspectrice.
Hi, the boss wants you. Can you come?
Hey, what's happened?
Hey, Toby.
How's your mother?
Fine.
You're in love, aren't you? That was none of my business. Look, I've got a bit of a problem. I need you back. This is Detective Robin Griffin. He's the officer in charge of the disappeared girl, the Tilly Mitchell case.
When I called from Auckland, I was told by Zena Sami that the case was closed. We've had a lot of readers' inquiries. They want to know if the girl's been found.
It's not closed, and it's not looking good. The girl's been missing for more than 2 months, and the statistical chance of survival in this weather is less than 1%. If you'll excuse me, I'll leave you with Robin. I've got another appointment to rush off to, but Look, if you're down here again, let us know and I can show you some of the good things we have to offer down here. Do you fish? You ski?
Nah.
Take a heli skiing, you'll write a story about that. See you later, Robert.
Well, Tuya was pregnant, which is not for publication. It's a child protection issue, so... Mm-hmm. Even if she is deceased, it's statutory rape and her body is very important evidence for us. This cafe is actually modelled on a Danish initiative. It's a training scheme for troubled kids.
That'd be a good boost to self-esteem.
Yeah. Yeah. Tui's up there.
Can I take a picture?
Mm-hmm. Au début, tu as parlé d'une image, d'une photographie qui était très jolie. Est-ce qu'on ressent la patte de la réalisatrice Jane Campion? Et est-ce qu'on a une image aussi très contrastée, je trouve, comme dans la leçon de piano?
Bah, la patte de la créatrice et de la réalisatrice. 3 épisodes étaient réalisés par Jane Campion et les 3 autres par Gérard Lim, même si on sent effectivement la touche de Campion sur l'ensemble. Mais la patte de Jane Campion, on la ressent à 2 niveaux, effectivement dans l'atmosphère, mais aussi, et ça c'est plutôt dans les thèmes abordés, pour le côté féministe. On en a déjà pu ressentir certaines bribes, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans le dossier. Donc tout d'abord pour l'atmosphère, c'est vrai que c'est une ambiance très particulière, mystérieuse, glauque, mais à la fois aussi très esthétisée. Et on est face à une série qui est plutôt contemplative. Donc à la fois, on l'a dit, avec des images magnifiques. Donc la nature est omniprésente, ce lac est vraiment une image qui revient souvent, ce qui donne aussi au spectateur à la fois un sentiment d'immensité mais aussi d'étouffement, parce que je ne l'ai pas dit mais l'Ectope se situe à un endroit où on a les montagnes, enfin les Alpes du Sud, et donc ces montagnes sont un peu écrasantes comme ça autour de ce lac, donc on a un peu ce sentiment d'étouffement. Et aussi quand Tui va disparaître, va se réfugier dans la forêt, bah là il y a plutôt oui ce côté refuge caché qui est un peu aussi à l'image de cette petite ville où tout se fait un peu de manière cachée, on vit très entre nous, ça soulève pas mal de questions aussi en termes de consanguinité. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui sont reprises, je vais dire, dans l'ambiance générale de la série. Ce qui aussi est à relever, c'est que par rapport à cette nature qui est magnifique, on peut mettre ça en opposition, on va dire, avec la nature humaine des gens qui vivent à l'Ectope, qui est très sans doute caricaturale, évidemment, et qui dépeint surtout les hommes de manière très primitive, animale, violente. Alors une violence qui est à la fois physique et psychologique, puisqu'on voit ces hommes de l'Ectope, hormis quelques-uns, et notamment Jono, qui est en fait un des fils Mitcham, mais qui s'est un peu repenti. Bon, il a eu des problèmes de drogue en Thaïlande, etc. Il a passé par la case prison, mais il est revenu. Et lui n'est pas du tout dans cette approche complètement machiste. Bah, pour le reste, les hommes sont vraiment réduits à des pulsions animales primaires.
C'est une vision très particulière de l'homme, quand même.
C'est une espèce de meute qui agit ensemble sans réfléchir et qui n'a pour but que de répondre à leurs pulsions. Et oui, c'est une vision assez tranchée et caricaturale, comme je l'ai dit, et très réductrice des hommes dans cette série, tout comme l'est sans doute aussi la vision des femmes. Donc il y a cette communauté, elle, qui se trouve à Paradise, dans ce magnifique endroit. Il y a la gourou New Age DJ qui est vraiment allumée. Et puis il y a ces femmes qui sont là, mais qui sont assez nunuches, assez neuneux, et qui prennent tout pour argent comptant.
Dans le sens endoctrinées par leur gourou.
Mais qui, en même temps, ont encore leurs pulsions, leurs envies, leurs pulsions, et qui essayent malgré tout d'y répondre. Donc, et là aussi, où les rôles, c'est très particulier, où les rôles sont inversés, puisque une dame arrive dans un bar, parce qu'elle n'en peut plus d'être dans ce camp complètement fermé de tout, et elle a juste envie de baiser. Donc elle dit, bah voilà, vous avez 7 minutes et pas plus, parce que Gigi m'a dit que au-delà de 7 minutes je risquais de m'attacher ou de prendre vraiment du plaisir, et vous pouvez avoir un rapport sexuel avec moi.
Elle a vraiment une influence sur tous les domaines de leur vie, sentimentale, la vie de groupe.
Oui, c'est une secte, c'est, on peut dire que c'est une secte, oui, ça c'est clair. Comme on peut avoir une vision réductrice des hommes, là aussi elle est très caricaturale et réductrice pour les femmes. avec sans doute une vision un peu plus nuancée pour Robin, comme elle est, je vais dire, plus nuancée pour les hommes en ce qui concerne Jono, pour l'enquêtrice Robin, où là, bah, on est un peu plus dans la nuance, même si ça reste une héroïne féministe pour la série.
Hey, I think I'll wait here, right?
Is ever in? Is in?
Are you dying?
Yes, yeah. Mm.
Nothing wrong with that. Very natural. The body knows what to do. Just go with the body. Are you frightened? You're not going to experience this death of yours. He will.
I'll be dead.
Will never be too much, but when it is, body goes unconscious. But you guys have drugs, yeah?
Yes, morphine.
That's not good. Find some heroin. In nature, there is no death. Just a reshuffling of atoms. And you? Do you have a question?
Would you like to ask something?
Alors, on a vu les féministes pures et dures, Robin qui est peut-être un peu plus nuancée, mais est-ce que cette série est une éloge au féminisme et est-ce qu'elle reste quand même abordable pour des gens qui le sont pas nécessairement ou pour les mecs?
C'est vrai que c'est pas du tout, comme j'ai dit, on va pas dans la nuance, on prend vraiment les choses en force. Il y a à la fois cette communauté de femmes avec cette gourou, il y a Tui qui, quand elle disparaît en tout cas, part sur son cheval avec son une énorme arme à feu dans le dos, donc on l'imagine un peu guerrière comme ça. Ce qu'on remarque aussi, et je l'ai pas dit, c'est que à certains moments, on peut y voir aussi une inversion des rôles. Par exemple, Robin qui se fait faire une petite gâterie dans les toilettes par Jono. Il y a un jeu, le message y va en force. Et c'est vrai qu'on peut laisser certaines personnes sur le côté de la route parce que si on n'adhère pas, ou en tout cas un minimum, ça devient difficile peut-être à regarder.
Moi, personnellement, je me suis senti totalement exclu de cette fiction. J'ai regardé, d'abord, je ne me suis retrouvé dans aucun des personnages parce que tous les personnages sont des crapules et je me considère pas nécessairement comme faisant partie d'une meute de chiens fous. J'ai beau avoir essayé de rentrer dans la fiction, je n'y suis pas arrivé parce que je me suis senti exclu de ce qui se disait.
Oui, parce que au-delà du message féministe, c'est tellement caricatural et c'est tellement stigmatisant pour les femmes et surtout pour les hommes que je peux comprendre en tout cas qu'on ne rentre pas parce qu'on ne se retrouve pas là-dedans parce que les traits sont vraiment tirés de façon extrême.
Totalement trop caricatural quelque part. Et alors en plus, je ne suis pas contre un peu contemplatif. On l'a vu dans Twin Peaks ou dans ce genre de série, ça ne me gêne absolument pas. Là, j'ai trouvé qu'il y en avait un peu trop. J'ai l'envie de m'endormir à côté du lac, hein, quand même.
Oui, mais c'est vrai que là, on est clairement dans le contemplatif. Ça prend du temps. Malgré tout, dans l'histoire de l'enquête, bah voilà, on est amené vers certaines choses qui, au fait, se révèlent fausses. Et c'est ça qui, en tout cas, moi aussi, m'a permis de tenir jusqu'au sixième épisode. Six épisodes, c'est pas non plus énorme.
À signaler que la série a été diffusée différemment sur Sundance Channel, qui a reformaté tous les épisodes en sept, un peu plus courts, pour, je crois, un problème de diffusion dans ces cases horaires.
Oui.
Donc je suppose qu'à ce niveau-là, ça change aussi un peu la donne, puisque la vision de la série est un peu différente, qu'on l'ait vu en 7 ou 6 épisodes, puisque les coupures seront à des moments différents.
Évidemment.
Au final, ton avis, trop de féminisme, une bonne enquête
Moi, je pense que ça reste une bonne série. Et ça reste une bonne série pour mes critères qui sont les suivants. Tout d'abord, je pense que, et moi je l'ai ressenti comme ça, c'est que c'était une expérience sensorielle forte. Moi, je suis très sensible aux images, à la beauté des images. Et c'est un univers, cette violence esthétisée, esthétisante, qui, moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'en tout cas, l'ambiance à ce niveau-là de la série et de sa mise en image me plaisait beaucoup. C'était fait avec soin, alors sans doute parfois peut-être trop contemplatif pour faire avancer l'histoire, mais qui me donne envie d'aller visiter la Nouvelle-Zélande, même si c'est pas la porte à côté. Ce que j'aime beaucoup de monde dans l'histoire aussi, c'est ces fausses pistes. Même si on a dès le départ le sentiment de savoir où est cette jeune fille qui l'a mise enceinte, malgré tout, on est un peu malmené, et ça, j'ai quand même apprécié. Elisabeth Moss remplit bien le contrat. C'est une bonne actrice. Le reste du casting aussi est très bon. Donc Matt Mitchum, qui est interprété par Peter Mullan, est un vrai méchant. Là, je trouve que ça se tient. Par contre, effectivement, pour le côté message féministe en force, c'est pas dans la nuance. Et pour moi, sans doute, dessert par contre la série à ce niveau-là. Ça, c'est sans doute le bémol à mettre au niveau de la série. Alors un petit point, je ne l'ai pas dit aussi, le générique est plutôt sympathique et même, je trouve, relativement beau. C'est une toile, une peinture à l'huile dont on voit le paysage avec ce lac. On voit les montagnes et puis apparaît le titre Top of the Lake. Et puis peu à peu, le lac grossit et l'eau devient complètement débordante et on se retrouve donc en dessous du lac, under the lake, avec les images d'un cerf, le squelette d'un enfant, puis on tombe vers le fond de l'eau, et puis l'image de cette jeune fille. Donc voilà, je trouve que le générique et la musique du générique plantent aussi relativement bien cette atmosphère à laquelle je suis sensible.
Donc quand même pas mal de points positifs autour de cette mini-série de Jane Campion, Top of the Lake. On vous laissera évidemment, juge, à vous de voir si vous allez accrocher ou pas à cet univers, mais qui est quand même, faut-il le rappeler, très très féminin. Pour ne pas dire féministe. En tout cas, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain dossier de Frontières des séries. Et merci Héloïse, merci Sophie.
Retrouvez aux Frontières des séries sur le web www.afds.tv.